Nous allons lire dans Luc chapitre 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32.
Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »
Voilà. Le Seigneur dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » C'est-à-dire, il n'a réclamé pas que seulement Pierre, il a réclamé tout le monde, tous les autres aussi. « Pour vous cribler, pour vous faire souffrir, pour vous travailler, pour vous écraser comme on écrase le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Là, il ne s'agissait pas de la foi qui devait grandir, mais de la foi qui devait résister, de la foi qui devait demeurer. Je veux parler du fait que nous devons résister. Il y a des niveaux d'accablement, de persécution, de pression qu'on peut subir où ce n'est plus une question d'avancer vraiment, c'est une question plutôt de résister, de tenir ferme. C'est ce que nous dit la parole. Le Seigneur nous appelle à résister. Quand c'est chaud, résistons. Il nous comprend. Il ne va pas nous demander des exploits en ce moment-là. En ce moment-là, il nous dit résiste. Garde les positions. Même dans l'armée, pendant les guerres, il y a des zones où les gens reçoivent les instructions du général et leur disent seulement gardez la position. Il ne leur demande pas d'avancer, mais de garder la position parce qu'ils ont envoyé les secours. Gardez la position. Le Seigneur nous demande de résister. Et lui-même a dit à Pierre, « Je vais prier pour toi. » Nous comprenons l'importance de la prière afin que ta foi ne défaille pas. Notre foi peut défaillir. C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus, même jusqu'aujourd'hui, il continue à prier pour nous. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 7, 25. Il est vivant pour intercéder encore pour nous. Il continue à intercéder pour nous. Sinon, notre foi va défaillir. La pression peut être forte. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que la pression peut être sournoise, diffuse. Ça t'étouffe petit à petit. Tu es en train de reculer sans t'en rendre compte. Tu es en train de mourir sans t'en rendre compte. Parce que tu es en train de céder, mais tu ne le vois pas parce que tu cèdes centimètre par centimètre. Tu recules. Dieu dit résiste. Nous allons lire Jacques 4, 7. Jacques 4, 7 et puis 1 Pierre 5, 8 à 9. Nous devons résister.
Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Et puis 1 Pierre 5, 8 à 9 nous parle aussi de la résistance.
1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Voilà ce qui est dit. Il n'y a pas de favoritisme. Tous les chrétiens dans le monde subissent les attaques du diable. Il n'y a pas de favoritisme. Souvent, quand ça nous arrive, on croit qu'on est le seul. On croit que les autres sont tranquilles. Non, ce verset nous dit que tous les chrétiens dans le monde subissent des pressions, subissent des oppressions, subissent des persécutions. Et qu'il faut résister avec une foi ferme. Il va fuir. Il est là comme un lion rugissant. Il fait peur. Sa pression peut faire peur. Au point que tu décides de lâcher avant même de résister. Le Saint-Esprit nous dit, la parole nous dit, garde ta foi, résiste, résiste. Par la résistance, tu vaincras. Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin. Par la résistance, tu vaincras. Tu ne vaincras pas toujours en attaquant. Parfois, tu vas vaincre en résistant. L'ennemi qui t'attaquait finit par se fatiguer et s'en aller. Parce que tu as résisté. Tu n'as pas bougé. Le Seigneur nous appelle à résister aux traits enflammés de l'ennemi qui viennent en grande quantité. Le Seigneur Jésus lui-même dit à Pierre, « Satan a décidé de te cribler. Moi, j'ai prié pour toi. » C'est que ça peut devenir sérieux. Ça peut devenir très, très sérieux. Le Seigneur en est conscient. Ne pensons pas qu'il ne voit pas nos problèmes. Ne pensons pas qu'il ne voit pas les difficultés. Il les voit. C'est pourquoi il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que toi, après, tu aides les autres. Et le Seigneur veut parler à chacun qui est ici ou bien qui écoute ailleurs. Il a prié pour toi. Il a prié pour toi. Alors ne déçois pas la personne qui est en train de prier pour toi en capitulant face au diable, en capitulant face aux démons, en capitulant face au mal, en capitulant face aux apparences. Les apparences peuvent aussi nous faire peur. Tu ne résistes même pas, tu capitules. Juste en regardant aux apparences, tu dis non, je ne pourrai pas. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Non, résistez. Résistez. Quand les gens ont vu l'apparence de Goliath, un géant de 3 mètres, aujourd'hui, il peut y avoir des géants de 3 mètres, mais très fins, très minces, qui ne font pas peur vraiment. Mais lui, c'est un géant de 3 mètres avec des gros muscles, bien armé, très fort physiquement. Tout le monde a eu peur. Et ils n'ont même pas voulu se battre. Tout le monde a eu peur. Il dit, mais qui peut se battre seul à seul contre cet homme? Alors que le Seigneur dit, résistez. Vous savez, on a souvent dit que David était le grand héros de cet événement. C'est vrai. Mais il y avait un autre héros quand même. Il s'appelle Saül. Saül a placé le sort de toute la nation sur un petit garçon en disant à David, « Va te battre au nom de toute la nation. » Il a eu quand même le courage. C'est David qui a combattu, mais Saül a résisté. Saül a eu le courage de dire, « Ben, on va résister, mais en utilisant ce petit-là. » Et la résistance de Saül a donné la victoire à Israël. Parce que Saül aurait pu dire, On ne peut pas, on capitule, puisque qui peut se battre contre Goliath? Puisque l'issue du combat, c'était aussi l'issue de la guerre entre les deux nations. Saül pouvait lever le drapeau blanc, dire, c'est pas la peine. Je ne vois pas qui peut battre Goliath. On lève le drapeau blanc, on capitule, c'est fini. On a perdu la guerre. Qu'ils viennent prendre nos femmes, qu'ils viennent prendre nos maisons, qu'ils viennent prendre tout, et qu'ils nous préservent au moins, qu'ils nous laissent la vie, on a perdu. Mais Saül aussi a résisté. Il a dit, ah, on va essayer quand même. Puisque ce petit-là semble rassurer que Dieu sera avec lui, ben on va essayer avec le Dieu de ce petit-là. Et il a laissé David se battre. C'est ça la résistance. C'est-à-dire, tu te souviens que, mais non, mais j'ai un Dieu. C'est ça la résistance. Tu dis, mais oh, mais Dieu existe. Si Dieu existe, il est tout-puissant. Il va faire quelque chose. Comme la femme qui souffrait de perte de sang. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de perte de sang. Il est écrit qu'elle avait essayé tous les médecins, rien n'avait marché. Elle avait essayé des guérisseurs, rien n'avait marché. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, « Ah, je pourrais essayer encore. » Bien-aimés, en réalité, nous ne perdons rien à résister. Puisque si on capitule, on a perdu. Mais vaut mieux résister si on doit perdre au moins en résistant. Puisque dans tous les cas, si on ne résiste pas, on a perdu. Donc autant résister. Mais ce qui est beau, c'est que la parole nous dit, si nous résistons, nous gagnerons. Alors autant résister. Obéir à la parole. Résister au diable, il fuira loin. Résister au mal. Ne pas céder, ne pas se dire, ben c'est comme ça. Vous savez, beaucoup de gens disent, c'est comme ça. Ils disent, soit ils disent, comme on dit en anglais, c'est comme ça. Donc, dans ce pays, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on n'a pas le choix. Surtout, j'entends ce langage-là dans les pays où règne la corruption. Quand tu parles à certains qui connaissent la parole, ils vont te dire, bon, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Et ils ont capitulé. Ils ont cédé. Le Seigneur nous demande de résister. Vous savez, beaucoup de gens sont devenus SDF parce qu'ils n'ont pas voulu résister à l'alcool. Il fallait résister à l'alcool. Mais ils avaient l'impression que ça allait submerger, qu'ils n'avaient pas le choix. Mais nous, nous avons une force, c'est le Seigneur. Qui encore est en train de prier pour nous? Nous devons résister, nous ne devons pas céder. Nous avons la parole de Dieu qui contient d'immenses, une quantité innombrable de promesses, de victoires, de gloire et de puissance. Le diable, sa technique, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est trop beau pour être vrai, votre parole là. Est-ce que ce n'est pas des légendes? Il le fait avec nous tous. S'il a fait ça avec Jésus, pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Dans Luc 4, dans Matthieu 4, il a fait ça avec Jésus. Il a dit, mais si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il a testé par la parole que Dieu venait de dire au baptême de Jésus 40 jours avant. Dieu venait de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc le diable vient utiliser cette parole pour dire, mais si vraiment tu es fils de Dieu, ben pourquoi Dieu ne transformerait pas les pierres en pain? Donc Satan veut mettre en doute la parole qui nous fait vivre, qui a nos projets. Nous construisons en fonction de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tous nos projets dedans. Alors il veut mettre ça en doute comme il avait eu qui? Notre ancêtre, Adam. Il a mis en doute la parole. C'est comme ça qu'il a eu Adam. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et dès qu'Adam a douté, tout s'est écroulé. Aujourd'hui, si nous souffrons, parce qu'Adam a douté de la parole de Dieu, Satan a réussi à mettre le doute par la pression, par la beauté du fruit. Le fruit était tellement beau qu'il a utilisé la beauté de ce fruit pour faire trembler Adam. Et la beauté de ce fruit, ça peut être la puissance du péché qui nous terrasse. Et Satan utilise ça pour dire, mais tu es trop attaché à ça, c'est trop fort, tu n'as pas le choix. Tu ne pourras pas t'en passer. La puissance du monde, des plaisirs du monde, Satan va te dire, mais tu ne peux pas. Et c'est comme ça qu'Adam a cédé. Et tout s'est écroulé. Le projet de Dieu s'est écroulé comme ça pour Adam. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Mettre en doute la parole qui nous dit que toute âme forgée contre toi est sans effet. Qui nous dit, par les maîtres sûrs de Jésus, tu es guéri. La parole qui nous dit, nul ne tiendra devant toi. La parole qui nous dit, si tu la médites nuit et jour, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le diable dit, mais oui, mais là tu ne réussis pas. Tu échoues là. Et toi, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai. Et dès que tu dis, c'est vrai, il te propose autre chose. Mais voilà la doctrine de la prospérité. Si tu sèmes tel montant dans tel ministère, tu seras béni. Donc, dès qu'on doute de Dieu, le diable te propose autre chose. Et il te sort du projet du Seigneur. Ou bien, mais oui, puisque tu échoues, pourquoi pas essayer la franc-maçonnerie? C'est une philosophie, ce n'est pas dangereux. C'est ça la technique. C'est comme ça qu'on va retrouver certains pasteurs dans la franc-maçonnerie. Puisqu'on lui a dit que c'était une philosophie. Mais est-ce que c'est la philosophie qui sauve, même si c'était une philosophie? C'est la puissance de Dieu qui fait avancer les choses. Résistons. Amen. Résistons. C'est le Seigneur qui nous parle. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche à te dévorer. Même si toi, tu ne vois pas, c'est le Seigneur qui t'informe. Vous savez, il t'informe que le diable rôde. Vous savez, quand on veut voir le médecin et qu'on lui montre les résultats des analyses biologiques, il lit et il t'informe. Mais toi, tu n'as pas vu ces microbes-là. Lui, il t'informe, il t'interprète, il te dit la réalité qui est là, c'est quoi? C'est que tu es proche de telle maladie et tu as déjà attrapé telle autre. Alors, pour parer à cela, voilà la solution. Et Dieu aussi t'informe que Satan est en train de rôder autour de toi comme un lion rugissant pour te dévorer. Résiste-lui avec une foi ferme. C'est ce qui est écrit, 1 Pierre 5, 8 à 9. Le péché peut être tellement fort. Il y a des gens pour qui la colère est devenue comme de l'eau à boire. Et au lieu de résister, ils vont passer leur temps à donner tort aux autres. Comme ça, ils vont justifier leur colère. Au lieu de résister, ils vont dire la chair est faible. Le Seigneur dit résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, résistez. Et la voix du diable va dire, mais oui, mais hier tu as demandé pardon, aujourd'hui encore tu es tombé, tu vas encore demander pardon. Et demain peut-être tu vas encore tomber, tu vas encore demander pardon, tu ne trouves pas que c'est exagéré? Ça ce n'est pas Dieu qui te dit, c'est le diable. Parce que son but, c'est quoi? C'est que tu ne résistes plus. C'est lui qui va te dire, tu fatigues Dieu avec tes pardons. Maintenant, est-ce qu'un jour Dieu t'a dit qu'il était fatigué? Non. Lui ne te dit pas qu'il est fatigué, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place, comme il avait parlé au jardin d'Éden. C'est quelqu'un d'autre qui vient dire, mais tu fatigues Dieu avec tes pardons là. Mais Dieu lui l'a dit dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais le diable dit, mais tu fatigues Dieu. Non. Bien-aimé, si tu dois confesser 80 fois par jour, tu confesses jusqu'à ce que ce péché te quitte. Jusqu'à ce que ce péché te quitte. Tu le refuses chaque jour. Résister, c'est ça, résister. Je tombe, je confesse. Je refuse. Oui, certains chrétiens qui connaissent ton histoire vont dire, mais tu exagères. Mais Dieu, lui, n'a pas dit ça. Dieu, quand tu lui demandes pardon, il est content. Tu lui demandes pardon, tu commences une nouvelle vie. Oui. Ta propre chair va avoir honte, dire, mais c'est exagéré de tomber tout le temps comme ça. Oui, c'est sale, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux? Rester dans la saleté? Qui a déjà dit, puisque nous nous salissons, vous savez qu'on se lave tous les jours? Pour les gens normaux. Hein? Mais qui a déjà dit, mais on se salit trop vite, moi je ne me lave plus? Qui a déjà dit ça? Ou bien on mange et on est rempli, on est bien rassasié. 4 heures après, tu as encore faim. Qui a déjà dit, bon, on a toujours faim, moi je ne mange plus? Personne. On continue toujours à manger. Alors, bien aimé, tant que tu n'en as pas fini avec un péché, tu dois le confesser, tu dois le rejeter, tu dois le refuser jusqu'à ce que ça s'en aille. Résister. N'écoute pas les voix des démons qui te disent « Tu fatigues Dieu, tu es un mauvais. » Dieu, lui, l'a donné son Fils Jésus pour toi. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son sang nous purifie de tout péché. La gloire de Jésus est de te voir propre par son sang. Quand tu es propre par son sang, lui, il est heureux. Il se dit « Je ne me suis pas sacrifié pour rien. » Voilà que cet enfant est propre maintenant. Maintenant, toi, au lieu d'être purifié par le sang de l'agneau, tu commences à faire des philosophies. Et ça finit par quoi? Ça finit par justifier le péché. Dire, mais est-ce que vraiment la cigarette, c'est un péché? Si c'est un péché, puisque ça détruit le corps, la Bible dit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, on ne doit pas le détruire. Au lieu de confesser, de résister, Tu as réussi à attraper la maladie de la paresse et tu commences à justifier le péché. En disant c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 33, « Ne craignez point, j'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le monde et il nous donne sa victoire. Donc ce n'est pas comme ça. C'est comme la parole dit. 1 Jean 3, 9 dit que celui qui est de Dieu a la semence de Dieu et il ne pratique pas le péché. Et donc on s'accroche à cette parole et on résiste. Nous devons résister, bien-aimés, aux pressions de toutes sortes de démons qui vont utiliser des gens avec qui nous travaillons, qui vont utiliser les gens du gouvernement, qui vont utiliser des voisins. Les démons vont les utiliser pour nous énerver. Ils vont les utiliser pour nous tenter. Nous devons résister à toutes ces pressions-là parce que le Seigneur nous a donné la force. Il est écrit dans 1 Jean 4, 4, « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Nous nous saisissons de tout ça. Même quand tu te sens faible, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne te demande pas de faire des exploits. Il te demande de résister. Je dis non. Je refuse de céder parce que mon Dieu qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et même si je continue à me sentir faible, sa parole est la vérité. Je reste sur sa parole. Et je prie. On commence à prier. Seigneur, relève-moi. Seigneur, c'est toi qui as dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alors tu peux prier pour moi aussi aujourd'hui. Et moi-même, je prie aussi pour moi. On peut partager son problème avec quelqu'un d'autre. Prie pour moi. Le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Donc on peut prier les uns pour les autres jusqu'à ce qu'on en finisse avec la pression qui nous environne. Le Seigneur Jésus lui-même a subi la pression en Gethsémané. Une telle pression qu'il a transpiré de gouttes de sang. Et il a fallu qu'un ange vienne le fortifier. Il a vaincu la pression. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a résisté. Il a dit, Père, que ta volonté se fasse. Pas ma volonté. Jésus a connu la même pression que nous. Il a dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe, c'est trop fort. Mais il s'est ressaisi. Il a dit, non, que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse. Nous pouvons résister. Nous devons résister au péché parce que ça nous amène en enfer, dans le feu éternel. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, mais ça me dérange le concept du feu éternel. Il m'a dit, tu t'imagines éternellement quelqu'un est dans le feu. J'ai dit à la personne, c'est le seul moyen de contenir le mal. C'est le seul moyen d'empêcher que le mal se répande. C'est le feu. Je lui ai donné l'exemple des poubelles. Quand on a fait la collecte des poubelles, on ne les laisse jamais comme ça. on finit par les brûler. Parce que si on les laisse, elles vont produire des déchets plus toxiques encore. Et ça va nuire à l'environnement et ça va nuire à nos vies. On est obligé en finalité de les consommer, de les amener à l'incinérateur. Le seul moyen de contenir le mal, c'est le feu. Ne nous amusons pas à continuer avec le péché en prétextant qu'il ne serait pas possible qu'il existe l'enfer et le feu éternel. On se trompe. Le feu éternel existe. Jésus en parle. Il en parle dans Matthieu 25. Il a dit le feu éternel réservé pour le diable. Ça a été fait pour contenir le diable, mais puisque les gens vont le suivre, ils vont aller dans le feu éternel. Ne nous amusons pas à nous dire que mes péchés ne sont pas comparables à ceux d'Hitler. Je ne vois pas comment on va subir le même sort. Mais Dieu t'informe que les péchés d'Hitler et tes péchés ont la même racine, ont la même source. Et c'est cette source-là qui est combattue par Dieu et qui va être envoyée dans le feu éternel, puisque tu as la souche comme Hitler. Cette souche, puisque c'est toi qui la contient, ben, le contenant et le contenu vont être envoyés au même endroit, puisque c'est lié. Ne nous amusons pas à nous dire que c'est trop horrible pour que ça existe. La parole de Dieu en parle clairement. Le feu éternel, dans l'Apocalypse, on dit que la mort, les mauvais vont être jetés dans le feu éternel. C'est clair. Au lieu de polémiquer là-dessus, demandons plutôt la puissance du Saint-Esprit pour prêcher aux gens pour qu'ils n'aillent pas dans cet endroit-là. Mais cet endroit existe. Ne nous méprenons pas et laisser les gens dans le péché, nous-mêmes supporter le péché en nous disant « c'est trop dur pour être vrai, c'est vrai. » Aussi vrai que le paradis existe, c'est aussi vrai. Le feu éternel aussi existe. Donc résistons au péché, bien-aimés. Le Seigneur est prêt à nous soutenir. Disons non. Dieu m'aidera. Tu dis non. Et on commence à prier jusqu'à ce que ça finisse. Le Seigneur nous appelle à résister au complot. Le diable, c'est le maître des complots. Et il utilise les hommes, des complots dans la famille. Il va utiliser des gens pour te combattre dans la famille. Il va utiliser des gens pour te combattre au travail. Il va utiliser des gens pour te combattre dans le quartier. C'est le maître des complots. Mais il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a voulu faire un complot contre les Juifs du temps d'Esther pour éliminer tous les Juifs. On est venu voir Esther pour dire « Esther, Esther, il y a un complot contre nous tous. Est-ce que tu peux résister en allant voir le roi pour lui dire ce problème-là ?» Esther a voulu fuir la résistance en se disant « Mais je risque ma propre vie. » Effectivement, quand on résiste, on risque sa vie. Mais là, nous résistons avec le Seigneur, donc on ne risque rien. Mais humainement parlant, on risque. L'erreur, c'est de croire que sans résister, c'est là que tu es bien. C'est une erreur. La fin sera grave pour toi. Vaut mieux résister. Et Esther a dit à Mardoché, tu sais, pour aller voir le roi, il faut demander la permission. Si tu ne demandes pas la permission et que tu entres comme ça, tu peux ou vivre ou mourir selon son bon vouloir. Alors, je ne veux pas prendre ce risque-là de mourir. Ah ! Mardoché lui dit, mais Esther, comment tu es devenue reine ? Tu étais une orpheline. C'est moi qui t'ai recueillie. Comment tu t'es retrouvée reine ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là ? Parce que Dieu savait qu'un jour on aura ce problème, afin que tu nous défendes, afin que tu résistes en faveur de ton peuple. Tu crois quoi ? Qu'on va tuer tous les Juifs et toi tu vas rester la seule juive vivante ? Mais même toi, on te sortira. Quand on finira avec nous, un jour, c'est toi qu'on attaquera comme juif. On te sortira. Ne pense pas t'en sortir tout seul. bien-aimés. Devant les complots, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais gagner du temps. Je vais faire des compromis. Je vais gagner du temps. Non, on ne gagne pas du temps. C'est une question d'éternité. Nous devons résister aux complots avec la prière. Parce que tu peux gagner une année et perdre beaucoup plus après en faisant des compromis. Il y a des complots autour de nous. Résistons avec la foi et la prière. Ne nous laissons pas entraîner par la colère, par des manières humaines de lutter. Tu vas finir par te battre et faire encore beaucoup plus de préjudice à toi et à ta famille parce que tu es tombé dans le piège. Le piège, c'était que tu te fâches. Le piège, c'était que tu te battes humainement parlant. Le piège, c'était que tu voles. Le piège, c'était que tu corrompes aussi. Le piège, c'était ça, que tu ouvres une porte pour qu'on t'attaque. C'est ça le piège. Il y a toutes sortes de complots. Vous savez, les complots sont très élevés. Le diable peut envoyer des gens mal vêtus juste pour que toi, tu les injuries. Il les envoie en gare du Nord, dans les gares, il envoie quelqu'un de difforme exprès pour que les gens se moquent de la personne et ils ouvrent ainsi une porte afin que le diable les attaque. Le diable attaque beaucoup de gens dans les places publiques. Il y a toutes sortes de complots, c'est le maître des complots. Et quand on n'est pas attentif, on tombe. Il va envoyer quelqu'un pour te provoquer. C'est toi qui respectes le code, la personne t'injurie comme si c'est lui qui a respecté, alors que ce n'est pas lui qui a respecté, c'est toi qui a respecté. Mais comme toi, tu te dis, mais j'ai raison, c'est un fou. Ah, ça commence comme ça. Complot. Tu es tombé dans le complot. Tu as injurié parce que tu avais raison. Et en injuriant, tu n'as plus raison finalement. C'est ça la technique. Il y a des complots contre nous. Ils rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des complots de tout instant. Tu veux avancer, on va t'envoyer des gens pour te retarder, pour t'énerver, pour te faire crier, pour te faire sortir hors de toi, afin que tu commettes un péché et que tu donnes un droit au diable d'agir sur toi et te freiner. Comme ça, tu n'avances pas. Résistons. Résistons. Tu veux faire quelque chose comme ça, coup de fil, mauvaise nouvelle. Du coup, découragé, tu ne peux plus aller faire ce que tu devais faire pour Dieu. Tu commences à triturer tes méninges avec ce que tu as entendu comme nouvelle venant du téléphone. Or, la parole dit, dans Psaume 112, verset 7, « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. » Au lieu d'utiliser ce verset, tu te laisses vaincre. Nous devons résister. Résistons. Ne nous laissons pas faire. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 10, 13, on va lire 1 Corinthiens 10, 13,
En Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Amen. Donc Dieu a déjà préparé le moyen. Quand les complots viennent, lui les a déjà vus. Et il a déjà préparé, donc lorsqu'il laisse faire, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Mais nous, nous sommes déstabilisés par ce que nos yeux voient. Et on se laisse influencer. Et au lieu de résister, quand ce que se dit, oh, mais c'est trop beau, c'est trop fort, je laisse faire. Ou bien, c'est trop beau, c'est trop fort. Mais est-ce que la Bible dit vraiment que je dois résister? Est-ce que la Bible dit vraiment que où est le mal en faisant ce que je fais là? Et on commence à changer les doctrines, de doctrine. Attention, résistons. Dieu a préparé la force à l'avance. Ne nous laissons pas faire. Vous savez, le monde ne résiste pas. Vous savez, il y a un adage dans le monde qui dit le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est quoi? C'est d'y succomber. C'est ce qu'on voit dans les publicités parfois de certains produits. Ne résistez pas, succomber. On te fait croire que si tu succombes, tu n'auras plus envie après. C'est faux. 30 minutes après, tu as encore envie. Hein. La Bible nous dit le meilleur moyen, c'est de quoi? C'est de résister. C'est comme ça qu'on est délivré. Ce n'est pas en succombant. Surtout que Dieu a préparé la force pour s'en sortir, pour nous en sortir. Nous devons résister aussi, bien-aimés, dans les épreuves. Nous allons lire Jacques, chapitre 1, 2 à 4. Nous devons résister aussi dans les épreuves. La différence entre les tentations, les attaques et les épreuves, c'est que les épreuves sont voulues par Dieu lui-même. Voilà. C'est voulu par Dieu lui-même. Après, certaines attaques de l'ennemi peuvent se transformer en épreuves puisque Dieu a laissé faire. Mais ce n'est pas Dieu l'instigateur, celui qui a commencé le projet. Il se saisit des attaques de l'ennemi pour créer une épreuve. Les épreuves, en quelque sorte, c'est Dieu qui te met dans des situations difficiles afin de te rendre meilleur, afin de te rendre responsable, afin de t'amener vers lui, qu'il y ait une grande proximité et que sa puissance se déteigne sur toi. Nous allons lire Jacques 1, 2 à 4.
Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Amen. Afin que vous soyez parfaits. Donc l'épreuve là, pour créer dans la résistance la patience. Quand on dit persévérance, dans la persévérance, il y a la résistance. La persévérance, c'est le fait de résister pendant longtemps. Et en résistant pendant longtemps, cette patience-là va produire la perfection en nous. Et comme ça, on va faillir en rien. Dans les grandes missions que Dieu va nous confier, nous sommes prêts. Les épreuves nous y ont préparés. C'est ainsi que David avait été préparé par les épreuves qu'il avait subies. Et il a été un bon roi jusqu'au bout. Mais Salomon n'a pas connu les épreuves de David. Il a été préparé théoriquement par les prophètes. Les prophètes l'ont enseigné, il a été très bien enseigné, il a eu de bons précepteurs. Mais il n'a pas été préparé par les épreuves. Il était fils de roi dans la tranquillité. Tout a été fait pour lui. Même pour construire le temple, David a collectionné les moyens qu'il fallait avant que Salomon devienne roi. Donc Salomon entre avec une grande connaissance parce qu'il a été préparé par Nathan le prophète, mais il n'avait pas connu les épreuves. Et on voit qu'il n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Mais David avait connu les épreuves. Et il est resté véritable roi selon la volonté de Dieu jusqu'au bout. Les épreuves nous préparent à affronter un avenir glorieux, puissant. Qui sans les épreuves nous amènera à chuter? Parce que vous savez, entre les persécutions, les difficultés et la gloire de Dieu, qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, si on n'est pas brisé, on ne peut pas la supporter. On tombera parce qu'on finira par se croire soi-même Dieu. Alors, pour accéder à des étapes élevées avec Dieu, il nous fait passer par les épreuves afin de nous confier de plus grandes responsabilités. Ainsi, nous pourrons tenir. C'est cela. Mais là, quand les épreuves arrivent, beaucoup de gens capitulent. Mais ceux qui ne comprennent pas, s'ils capitulent aujourd'hui, Dieu peut me faire marche arrière, mais un mois après, il va remettre une autre épreuve. Parce que Dieu ne reculera pas dans son intention d'accomplir sa volonté dans nos vies. On peut faire une pause parce que les épreuves nous dérangent, mais il va ressusciter encore une autre épreuve. Parce qu'il veut qu'on soit parfait, il veut qu'on soit responsable, il a prévu un avenir glorieux pour chacun de nous. Donc, résistons. Ne disons pas à Dieu, je ne veux pas de cette épreuve aujourd'hui, plus tard. Non. Disons à Dieu, donne-moi la force de tenir. Résistons dans les épreuves. Jacob a résisté. Il était dans une grande épreuve. Il devait rencontrer son frère Ésaü. son frère Ésaü était, vous savez, vous vous souvenez que Jacob avait pris la place d'Ésaü dans le droit d'aînesse. Son frère Ésaü était en colère. C'était quelqu'un de fort physiquement, un chasseur, un violent. Et Jacob savait qu'il était en train d'arriver. Et Jacob tremblait. Qu'est-ce qui va m'arriver? Jacob a résisté. Il est parti prier tout seul. En priant, il a combattu contre un ange. Jusqu'au matin, il n'a pas cédé. Au fait, ça voudrait dire, cette affaire-là de Jacob, c'est un symbole de résistance dans les épreuves. Tu te dis, je ne veux pas céder vis-à-vis du plan de Dieu. Il est dur le plan de Dieu, mais je vais y aller. Il est dur l'épreuve, mais je vais y aller, je résiste. Jusqu'au bout. Et c'est ainsi que Dieu a changé son nom. C'est passé de Jacob à Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Dieu veut changer notre nom à travers l'épreuve pour te faire passer à une autre étape. Jacob est devenu Israël. C'est devenu le peuple de Dieu. C'est grand d'être le peuple de Dieu. Parce qu'il a résisté. Il a dit, je ne bouge pas. Je reste dans le plan de Dieu. Et l'ange a voulu le quitter. Il a dit à l'ange, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Nous devons résister jusqu'au bout. Dire au Seigneur, tant que je n'ai pas vu ta parole s'accomplir, moi je continuerai à prier. Tant que je n'ai pas vu les versets bibliques s'accomplir, je continuerai à prier. Beaucoup de gens ont capitulé. Ne voyant pas les versets bibliques s'accomplir, ils ont changé les doctrines. Se sont dit, ah bon, peut-être les miracles sont finis, se sont arrêtés en 1850. Peut-être, oui, il y a une église qui a comme doctrine, les miracles se sont arrêtés en 1850. Voilà. Parce que comme ils ne vivent plus les miracles, au lieu de considérer ce temps-là comme un temps de disette, un temps d'épreuve, ils ont préféré changer de doctrine pour s'adapter à leur échec de tous les jours, pour s'adapter aux épreuves. Non. La Bible est claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Même si on ne le vit pas, on doit les chercher, puisque Dieu nous l'a promis. On doit résister. On doit se dire, on va continuer à prier jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et en cherchant Dieu, Dieu va nous donner les raisons pour lesquelles on ne le vit pas encore. Il va nous parler. Mais il aime les gens qui résistent, qui disent non, comme Jacob. Les apparences, je ne me fie pas à cela. Vous savez, Dieu va faire exprès. Il va créer des apparences comme quoi il n'est plus là. Il y a une différence entre être absent et se cacher. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Mais il est présent, mais il se cache. C'est différent. Il est là, mais il se cache. Maintenant, puisqu'il se cache, toi, tu ne le vois pas, tu conclus qu'il n'est pas là. Dieu dit non, tu dois vivre par la foi. Tu dois croire qu'il est là. Même si tu ne le vois pas. C'est ça la foi. Nous devons résister. On dit non, Dieu existe. Et comme il existe, il va s'occuper. Il va agir. Dieu est amour. Vous savez, il y a une femme désespérée par l'état de sa fille. Il aborde Jésus sur la route. Il dit, Seigneur Jésus, viens sauver ma fille. Jésus ne répond même pas. Et les disciples de Jésus disent à Jésus, renvoie-la, chasse-la. Voyez l'atmosphère. Et cette femme-là, elle n'était pas juive en plus. Devant une telle atmosphère, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Tu t'adresses à Jésus, il ne te répond pas. Et les gens qui l'entourent, en plus, disent à Jésus, chasse-la, renvoie-la. Puisque tu es une étrangère. Là, tu vas vraiment bien confirmer. Ah, on disait que Jésus était bon envers tous. Mais là, c'est parce que je ne suis pas juif. Voilà son comportement. Je fais demi-tour. Non, cette femme a dit non. ce que j'ai entendu de ce monsieur et ce que je vois là n'est qu'une apparence. Il est amour. La femme a insisté. Elle a fait confiance à ce qu'elle avait entendu sur Jésus. C'est un homme rempli d'amour. Il ne laisse jamais quelqu'un souffrir. C'est lui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Elle n'avait que cet enfant-là comme famille. Elle allait l'enterrer avec les gens du quartier. Jésus a vu le convoi. Il a arrêté le convoi. Il a ressuscité le garçon. Il l'a remis à sa maman. Cette femme devait être au courant de tout ça. Alors quand Jésus ne répond pas et qu'on lui dit à Jésus, renvoie-la, la femme dit non. Cet homme est rempli d'amour. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Eh bien, Jésus va rajouter, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Ah! Là, ce n'est plus les disciples qui découragent. Ce n'est plus l'entourage de Jésus qui décourage. Lui-même, Jésus décourage. Il dit à la femme, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Cela veut dire que toi, tu n'es pas juive. Moi, je ne vais pas prendre la puissance que Dieu a envoyée pour les juifs, te donner toi, une chienne. Je crois que beaucoup auraient dit, bon, on nous avait menti sur cet homme-là. Voilà son langage. Je fais demi-tour. C'est ce que le diable veut que tu dises. Est-ce que la parole de Dieu, c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Toutes ces belles promesses, on ne les voit pas s'accomplir. Je fais demi-tour. Ne fais pas demi-tour. La parole de Dieu est vraie. Résiste. Tu verras la gloire de Dieu. La femme a dit, ah bon? Ben, sache que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Mais ils grandissent. C'est vrai que c'est une parabole difficile à comprendre en Europe aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui en Europe, les chiens mangent très bien. Et on fait même la publicité des nourritures des chiens. Je me demande, est-ce que c'est le chien qui va regarder la pub ou bien c'est le maître qui mange par procuration. Donc, on met la pub de conserve de chien à la télé. Je me dis, mais est-ce que le chien a de l'argent pour acheter tout ça? Mais c'est que il compte sur le fait que le maître va manger par procuration à travers le chien. Donc, c'est vrai que c'est une parabole difficile à comprendre. Mais nous qui avons grandi dans d'autres zones, dans d'autres régions, nos chiens mangeaient de nos miettes. Ils n'avaient pas un truc spécial pour eux. Donc, nous, on mangeait d'abord. Et c'est nos restes qu'eux, ils mangeaient. Nous, on comprend bien cette parabole. Et ces chiens-là étaient costauds quand même, malgré tout. Ils pouvaient te mordre sérieusement. Et donc, la femme dit à Jésus, « Mais les chiens, ils mangent les miettes, ils grandissent, ils sont forts. » Jésus a dit, « Non, tu me dépasses. Tu as compris qui je suis. Amen. Soyons comme cette femme. » Jésus a dit, « Tu as compris. » Que je suis amour, je ne peux pas te faire du mal. Je testais ta foi tout simplement. Qu'il soit fait comme tu le veux, femme. Ta foi est grande. Et quand elle est retournée chez elle, sa fille était guérie. Parce qu'elle avait compris Dieu en profondeur. Bien-aimé, Dieu nous aime. Pourquoi il va donner son fils unique s'il ne nous aime pas? Les épreuves ne sont que des épreuves. C'est des tests pour vérifier notre foi et pour la fortifier, pour nous rendre plus forts qu'avant. C'est tout. Ne suivons pas les apparences. Dieu va construire des apparences négatives pour nous faire mal, pour voir si vraiment on a compris qu'il nous aime. Accrochons-nous, disons Seigneur, comme cette femme-là. Je crois que tout ça n'est qu'apparence. Tu m'aimes. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. C'est ça. C'est notre ferme appui. Il m'aime. Il ne peut pas me vouloir du mal. Ce que je vis là n'est qu'apparence. Je vais résister à cette apparence. Et la lumière de mon Dieu sortira, jaillira. Amen. C'est cela, bien-aimé. Mon Sauveur m'aime. Mes souffrances ne sont qu'apparence. Mes souffrances ne sont que construction divine. Elles me préparent à de grandes choses pour l'avenir. Un point, c'est tout. Résistons dans les épreuves jusqu'à ce que la gloire de Dieu jaillissent. Moi, je vois, bien-aimé, beaucoup de gens capituler même dans le service pour Dieu. Il y a une maladie qui l'attrape la nuit, alors que le lendemain, il doit servir Dieu. Coup de fil. Frère, je ne peux pas, je suis tombé malade. Ah ! Bien-aimé, moi je dis, mais Dieu est-il faible ? Il y a parfois des gens qui sont déjà à l'église, un certain mal de tête ou je ne sais pas, mal à la jambe. Bon, je dois rentrer à la maison. Mais est-ce que la maison va te guérir ? Ou c'est Dieu qui guérit ? Au lieu de dire, bon, je lui amène ma maladie. Nous, on dit, ben, je reste avec ma maladie. Voilà ce qu'on dit. Au lieu de dire, je lui amène ma maladie. Je vais lui faire honte à l'église là-bas. Lui, il est Dieu, nous, le chrétien, on est malade. Comme ça, tout le monde va le voir. Non. On reste avec la maladie. Non. Il faut amener à Dieu la maladie. Dieu, je viens t'affronter. Guéris-moi. Mon sauveur même. Il est présent, il est vivant. Amen. Alan Yuan a fait 22 ans en prison pour la gloire de Dieu. Un Chinois, à l'époque où on persécutait les chrétiens en Chine, très fortement. Il avait combien d'enfants ? 6. Il laisse une femme avec 6 enfants. On lui demandait de renier Jésus. Il disait, je ne peux pas. Eh bien, tu vas être en prison ? Condamné à la prison à vie. Beaucoup vont dire, mais où est Dieu? Pourquoi? Qui va donner la nourriture aux enfants? Beaucoup vont dire, bon, je vais officiellement capituler, mais en cachette, je vais prier Dieu. Dieu, il y en a qui vont changer la doctrine, vont dire, Dieu voit partout. Donc, il regarde mon cœur, il sait que je l'aime. Je fais seulement pour aller aider mes enfants. Mais Dieu aime tes enfants plus que toi, tu aimes tes enfants. Vous savez, un jour, il n'avait plus rien à manger, la nuit. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, un enfant, un jeune enfant vient frapper à la porte et amener une enveloppe à la dame. La dame dit, vous vous appelez comment? Il dit, ma mère a dit que je ne donne pas mon nom. Prenez seulement l'enveloppe. Il y avait de quoi faire des provisions pour une bonne durée. Un autre jour, une dame d'une soixantaine d'années vient frapper avec 3 colis. Un grand colis pour Alan Yuan en prison, un colis moyen pour aider les autres et un petit colis dans lequel il y avait beaucoup d'argent pour la famille. Vous vous appelez comment, madame? Je ne peux pas vous dire mon nom. Et puis, chaque mois, elle commençait à recevoir un mandat d'une somme d'argent. Maintenant, quand elle fait l'enquête pour savoir qui a envoyé, qui se trouve derrière le numéro d'envoi, la poste lui dit, il n'y a personne qui habite dans cet endroit-là. Pendant 22 ans, Dieu a pris soin des enfants d'Alan Yuan. Et quand il sort de prison, c'est le réveil qui sonne. Les gens quittent toute la Chine, même les États-Unis, pour venir le voir. Ça crée le réveil en Chine. Il a triomphé des forces du communisme. Et il n'était pas seul. Il y avait Epaphras. Il a dit, je ne veux pas renier mon Seigneur. Et puisque vous m'avez condamné sans raison, je vais rester en prison. Quand on a voulu le libérer, il a dit, mais vous m'avez condamné, je ne sors pas. Puisque je n'ai toujours pas... Vous m'avez condamné parce que je crois en Jésus. Maintenant, vous voulez me sortir, pourquoi? Non, on va falsifier. On va dire que maintenant, tu ne crois plus. Il a dit, non. Je refuse. Je continue à croire en Jésus. Donc, je dois rester en prison. Mais comme c'est des pays de dictature, ils ont falsifié. Ils ont mis quand même qu'ils ne croient pas. On l'a sorti. Eh bien, lui, il a construit une maison près de la prison pour dire, je suis toujours là, en prison. Je reste un coupable innocent comme mon Seigneur Jésus. qui a été crucifié alors qu'il était innocent. Et Epaphras, pour leur montrer qu'il croyait toujours en Jésus, pour manifester la gloire de Dieu, il jeûnait 5 jours par semaine. Il disait, ainsi le monde saura que Jésus est vivant. Et il priait pour l'église du Seigneur dans le monde entier. C'est ça les épreuves. Ça transforme des gens. Les gens deviennent de lumière. Résistons, bien-aimés, ne reculons pas. Faisons face à Dieu. Dans nos faiblesses, faisons face à Dieu. Disons, je crois qu'il est là. Tout ça n'est qu'apparence. Résistons. Aujourd'hui, ça donne l'impression que être dans la vérité, c'est synonyme de pauvreté, de difficulté. Résistons. Restons dans la vérité. Les fausses doctrines viennent toujours lorsque l'homme veut adapter sa réalité à la Bible. Il vit une réalité qui n'est pas conforme à la parole. Pour justifier ça, il transforme les doctrines bibliques. Ainsi, il peut justifier sa réalité. Et puisqu'il veut gagner de l'argent comme les gens du monde, il va justifier les choses. Doctrine de la prospérité. On vend les choses de Dieu. On se dit, mais comment on va financer les choses de Dieu? Mais on va financer. Dieu a dit, je vous ai envoyé. L'ouvrier mérite son salaire. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et on copie les doctrines du monde, les choses du monde, et on amène ça dans les choses de Dieu, parce qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. C'est ce qui s'est passé, non? Saül a eu l'impression que Dieu n'agissait pas. On lui a dit d'attendre 7 jours avant d'aller en guerre, mais 7 jours sont arrivés, sont passés, on est arrivé plutôt au 7e jour. Samuel ne venait toujours pas. Au lieu d'attendre jusqu'au coucher du soleil, il se précipite, il dit, mais les soldats sont en train de partir, comment je vais faire la guerre? Les soldats sont fatigués, ils rentrent chez eux, moi je veux avoir le nombre qu'il faut. Lui-même, il fait le sacrifice à la place de Samuel. Et Samuel, quand il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es compromis pour faire face à la réalité d'une manière humaine. Il voulait faire face à la réalité que les soldats étaient en train de partir, donc il restait peu de gens pour faire la guerre. Donc pour faire la guerre avec un minimum de gens, il fallait faire ce qui lui était interdit de faire. Et il a voulu justifier. Samuel lui a dit, non, non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Attention, fausse doctrine. Il y a une fausse doctrine qui circule aujourd'hui. On peut sortir de son corps en tant que chrétien pour aller faire des choses. Tout ça parce que les gens ont l'impression que Dieu n'agit pas. Alors peut-être en sortant de son corps, nous-mêmes, nous allons agir, aller prendre des choses comme les sorciers. Et il y a même un pasteur qui dit, mais vous acceptez que les sorciers le fassent et pourquoi pas nous? Nous, on sort de nos corps pour aller faire du bien. Mais qui vous a demandé de sortir de votre corps? La Bible ne le dit pas. Ah oui, mais quand Jésus est apparu aux apôtres, il était un esprit, non? Non, il était un corps, c'est écrit. Il a même dit, un corps n'a ni chair, ni eau. Il a dit aux autres, donnez-moi un truc à manger. On lui a donné un poisson, il a mangé. Au contraire, Jésus a montré qu'il était un corps, il n'était pas un esprit. Il a dit, je ne suis pas un esprit, je suis un corps. Un corps qui peut traverser les murs, mais je suis un corps. On dit, mais il était esprit, pourquoi pas nous? Non, non, il n'était pas esprit, il était corps. C'est des mensonges. Et ces pasteurs-là expliquent tout ce qu'ils ont obtenu en sortant de leur corps. Je suis sorti de mon corps, j'ai pris telle chose. Et les chrétiens suivent en masse parce qu'ils ont l'impression que obéir à Dieu tout simplement, tel que c'est écrit dans la Bible, prier tout simplement, ça ne donne pas. Nous allons faire autrement. C'est démoniaque. Résistons aux fausses doctrines. Résistons à ça. Nous allons obéir à Dieu tel qu'il se présente dans sa parole. Accepter cette simplicité et attendre. Joseph a résisté. pendant plus de 20 ans, il a connu l'éloignement de sa, vis-à-vis de sa famille. Il a résisté à la femme de Potiphar. Il ne s'est pas dit, bon, je suis éloigné de ma famille, qui va me surveiller, qui me regarde, personne. Je suis esclave, mais avec cette femme, je peux vivre comme un patron. Bon, je vais sortir avec elle. Non, il s'est dit non. Dieu a fait des promesses dans ma vie. Je ne vais pas les annuler à cause d'un plaisir ponctuel. Non. Ou bien même de 10 ans, de 8 ans. Les promesses de Dieu sur ma vie sont plus élevées que tout cela. Attendons, bien-aimé. Les gens vont te dire, mais tu as une belle voix, qu'est-ce que tu attends pour faire un CD? Oh, dis-leur, c'est la voix pour le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vu qui c'est qui dans le monde a les plus belles voix? N'est-ce pas les oiseaux? Vous avez déjà vu un oiseau faire un CD? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oh, sœur, oh, jusque-là, tu n'as pas encore fait. Si, si, je fais des CD au ciel. À chaque fois que je chante pour Dieu, eh bien, c'est un CD au ciel. C'est enregistré. La Bible dit que les œuvres des saints les suivront au ciel. Toutes les bonnes œuvres sont enregistrées. Mais frère, vous avez de belles chansons. Vous avez déjà fait un CD? Déjà au ciel, beaucoup. Ils veulent qu'on fasse comme dans le monde. Commence à faire des voix, je ne sais pas comment, comment on entre. Oh. Moi, je dis pas chez nous ces trucs-là. Nous allons chanter simplement comme les oiseaux. Et surtout les oiseaux, eux, ils chantent avec joie. Pas vouloir faire des cris comme à l'opéra, je ne sais pas comment. Ils chantent avec joie. Martin Luther, quand il rencontrait les oiseaux, il disait, oh, je vous fais hommage. Vous, les grands adorateurs, le grand chantre de Dieu, vous louez Dieu chaque jour sans vous poser des questions, sans vous fâcher, sans vous embêter. C'est vous les vrais louangeurs. Hein? On crée ce mot-là pour eux. C'est eux. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et les oiseaux le font à merveille. Sans dire, ah, mais moi, je n'ai pas de Mercedes, je n'ai pas de maison. Ils sont là. Il loue Dieu chaque jour. Et Luther disait, je vous rends hommage. Vous les grands serviteurs de Dieu, vous les oiseaux. C'est ça, bien-aimé. Mais c'est nous que Dieu a choisi pour être ses grands serviteurs. Revenons à notre place. Résistons à l'épreuve. Louons Dieu dans l'épreuve. Car il est là, même s'il se cache, il est là quand même. Lorsque l'épreuve va aller loin, il va sortir pour mettre sa main. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est le temps de la résurrection. Amen. Résistons aux fausses doctrines, résistons aux maladies, bien-aimés. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont là. Bon, le médecin dit, je dois faire telle dose. Moi, quand j'entends ça, ça me fatigue. Bon, je ne peux pas déconseiller aux gens de prendre les médicaments. Mais il faut en parler comme quelque chose de... Voilà. Mais les gens parlent parfois avec une foi, avec une conviction. Non, la foi et la conviction, nous devons la mettre dans la prière pour que Dieu nous guérisse. Voilà. Et les gens disent, bon, c'est une maladie à vie. Non, tu ne dois pas dire de telles choses. Tu dois dire, on m'a dit que c'est une maladie à vie. On m'a dit. Mais toi, chaque jour, tu dois te réveiller et dire, je refuse le diabète. Et tant que tu as la conviction, tu prends ton médicament. Si un jour tu n'as pas la conviction, voilà, tu obéis au Saint-Esprit. Je refuse. Chaque jour, tu refuses. Aujourd'hui, on commence à accepter. On a fait tel diagnostic qu'on accepte. Bien aimé, vous savez, mon petit frère allait mourir. Il allait mourir. On nous a appelés pour dire c'est fini pratiquement. Ma grande sœur commençait déjà à pleurer. J'ai appelé tous mes frères et sœurs. Je leur ai dit, les pleurs ne donnent pas la foi. Nous allons prendre un jour, nous, toute la famille, nous allons jeûner et prier. Nous allons affronter cette maladie dans la prière. On a pris un jour de jeûne. Et il a continué maintenant à prendre ses médicaments. Mais c'était fini, bien-aimé. Quand je vous dis c'était fini, c'était fini. Mais Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il vit. Ça fait déjà quelques mois que sa mort devait arriver. Et il m'a appelé avant-hier, ce qui a confirmé cette prédication. Il m'a appelé pour dire merci. Il a dit, son médecin a rencontré notre beau-frère qui avait amené mon petit voir ce spécialiste-là. Il a dit à mon beau-frère médecin, il a dit, mais ton beau-frère que tu avais amené, il était déjà mort. J'ai donné seulement les médicaments pour donner. Mais je ne comprends pas comment il vit jusqu'à aujourd'hui. Et donc lui-même a pris conscience qu'il était mort. Et il a appelé, il a dit, vous avez jeûné pour moi, merci. Je vis par la grâce de Dieu maintenant. Un jour dans sa maladie, il était assis. Je crois que c'était 2 jours après qu'on ait prié. Il a senti quelque chose qui était en lui qui est sorti. Le cancer, je ne sais pas quoi, comme un crabe. Allez, coup de pied de Jésus, c'est parti. Nous devons résister. Il y a des gens qui reviennent fièrement de chez le médecin. Il m'a dit que je suis hyper tendu. Quoi, bien-aimé? Et tu reviens avec fierté? Tu dois revenir en colère. Il m'a dit ça, bon, nous on va lutter dans la prière. On refuse ça. Toute ma vie, bien-aimé, je veux refuser la maladie. Même si ça m'attrape, je veux continuer à refuser quand même. Pourquoi, vous savez? Parce que le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À cause du sacrifice de Jésus, je respecte le sacrifice de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas tomber malade? Je n'ai pas dit ça. On peut tomber malade, mais on résiste. Voilà. Comme notre frère Paul, nous ne savons pas ce qu'il avait. Il a résisté, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Mais toi, Dieu ne t'a pas dit cette phrase-là. Donc continue à résister. Tant que tu n'as pas entendu cette phrase, tu résistes. Nous devons prier les uns pour les autres. Moi, quand quelqu'un est malade dans l'église, j'ai l'impression que moi-même, je suis malade. Je dis, mais Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai entendu que tel frère encore est malade. Ah non! Jusqu'au bout, nous allons prier de sorte que la maladie va devenir un vieux souvenir. On va commencer à dire, ah ben, autrefois, on tombait malade régulièrement, mais là, c'est fini. Oui, oui, on va vivre ce moment-là. Parce qu'il est clairement écrit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Proverbe 3, 5 à 8 dit, on va lire ça, ce n'était pas prévu ancien, mais on va lire ça. On va lire, parce qu'on doit résister à la maladie. Ça suffit comme ça. De donner. Moi, ça m'énerve d'entendre la maladie dans la télévision. On donne, on cite de nouveaux maladies, je ne sais pas quoi. Ça prend même des noms de savants, quoi. Alors que c'est une maladie, le savant accepte que ça porte ses noms, son nom. Oui, Proverbe 3, 5 à 8.
Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.
Amen. Ça sera la santé pour tes muscles dont on touche à tout le corps. Vous comprenez que Dieu connaît le corps. Il sait que c'est composé de trucs qui sont durs et de trucs qui sont mous. Voilà. Ça sera le rafraîchissement pour tes os et la santé pour tes muscles. Voilà. C'est la parole. Il est écrit, médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc chaque jour, on dit, Seigneur, mais Seigneur, c'est écrit. Comment nous, on est encore malades? Allez, Seigneur, agis. Ah Seigneur, le sang de Jésus a coulé à la croix pour notre guérison. On va lui rappeler ça, jusqu'à ce que nous vivions cela. Le temps que nous vivons est un temps d'épreuve, mais ce n'est pas appelé à rester ainsi. Nous devons résister à ça. Il y a des raisons par rapport à ce que nous vivons. Parce que quand Dieu a commencé à agir, les humains ont pris ça, ils en ont fait leur commerce. Ils en ont fait leur pouvoir. Et Dieu nous a envoyés dans le désert. Nous acceptons ce temps d'épreuve pour qu'il voie nos intentions, qu'il purifie nos intentions. Mais nous résistons jusqu'à ce que nous vivions la parole de Dieu. Vous savez, il y a un homme qui a vu le Messie. Comment il s'appelle? Siméon. Il est écrit que cet homme-là, il attendait le Messie avec fermeté, à tel point que Dieu lui a dit, bon, tu ne mourras point avant de voir le Messie. Et un jour, il est envoyé par le Saint-Esprit au temple. Il voit un couple amener un bébé. Le Saint-Esprit lui dit, mais ce bébé-là, c'est le Messie. Il vient, il prend l'enfant. Il dit, Seigneur, maintenant je peux mourir parce que j'ai vu ton Messie. Lumière pour toutes les nations. Amen. Jésus est la lumière du monde. On ne peut pas vivre comme si on était dans les ténèbres. Lumière pour toutes les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Dieu est lumière. Tout ce qui tend à la mort, tout ce qui tend à l'étouffement, à la maladie, c'est des ténèbres. Dieu est lumière. Nous devons résister à tout ce qui est ténèbres. Le divorce, c'est des ténèbres. Nous devons résister à ça. La destruction des familles, des enfants impolis, des enfants qui ne veulent pas étudier, c'est des ténèbres. Nous devons résister à tout ça. Nous ne devons pas laisser faire dire que c'est l'âge. Non. Il y a une femme qui a prié pour son fils pendant 14 ans. C'était un vrai bandit, un vrai délinquant au Brésil. Un jour qu'elle était en train encore de prier à l'église, d'intercéder pour son fils. Son fils était dans le carnaval. Vous vous imaginez le carnaval de Rio, avec toutes les femmes dénudées, avec les symboles. Pour ceux qui sont en Europe, qui ne connaissent pas ces choses-là, il faut savoir que le carnaval, c'est vraiment quelque chose du diable. Par exemple, dans les Antilles, on donne carrément la clé de la ville au seigneur Vaval, c'est-à-dire au diable. On lui donne la clé de la ville. C'est vraiment quelque chose d'officiellement du diable. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire que nous, les chrétiens, nous disons du diable. Non, c'est officiel. On lui donne les clés de la ville. Et il est en plein carnaval. Il entend une voix qui lui dit, tu sors d'ici. Oh, il veut résister. Hein? Mais vous savez, la voix qui avait parlé à Matthieu, qui se souvient de ça? Matthieu 9:9. Comme ça, vous allez vous souvenir facilement. Matthieu 9:9. Matthieu était assis sur son bureau, chef de collecteur d'impôts, grand chef. Et Jésus passait par là. Jésus lui dit, Lévi, il s'appelait Lévi. Lévi, suis-moi. Quelqu'un qui est assis sur son bureau, c'est pourquoi moi je dis aux chrétiens, ne forçons pas dans l'évangélisation, ne forçons pas, disons la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant, ne forçons pas. Quelqu'un qui est assis sur son bureau, vous vous dites, aujourd'hui tu passes dans une entreprise, tu vois le DG, le directeur général, tu lui dis, suis-moi. Et il se lève, il quitte son boulot. Il suit Jésus. Ça, c'est la voix du Seigneur. Ce dont le psaume 29 dit, ça fait enfanter les biches. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Ça fait bouger les arbres. Cette voix-là, quand tu attends dans ton cœur, tu ne peux pas résister. Le bandit, il est dans le carnaval, il entend, sors d'ici. Il veut résister, on lui dit, tu sors de là. Tu es à moi. Il sort, il retourne chez lui, il arrive là-bas, sa concubine était dans l'appartement. Ils n'avaient aucun problème. Hein. Il veut ouvrir la porte, la concubine dit, hey, n'entre pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus de toi, c'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est là que cet homme s'est converti totalement. Parce que sa maman priait. Il y a des gens qui ont croisé les bras. Ah, c'est l'âge. Il comprendra plus tard. Non. Ce n'est pas l'âge. Parce qu'il y a des gens qui ont 65 ans, qui sont des vrais mauvais. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens qui ont 70 ans, qui sont des grands, grands mafieux. C'est le diable. Il faut résister. c'est ton enfant. Dieu a dit dans Deutéronome 28:4, mais toute maman devrait connaître ça, Deutéronome 28:4, ça dit quoi? Vous voyez? Deutéronome 28:4, toute maman doit connaître ça. Le fruit de tes entrailles sera béni. C'est à toi, c'est pas au diable ton enfant. Et toi, tu as laissé au diable, tu as dit, ah, il a choisi son chemin. Non, c'est ton fruit. C'est à toi. Tu dis, je refuse, c'est mon enfant. Mon enfant doit servir le Seigneur. Comme Anne, Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. Chaque parent doit dire, c'est mon enfant. Et mon enfant est consacré. Et priez comme ça, vous allez voir. Mais quand on fait comme si l'enfant était libre, il n'a qu'à choisir. Ah non, Dieu a dit, le fruit de tes entrailles est béni. Personne ne peut toucher ce qui est béni. C'est à Dieu, c'est consacré. Surtout les fils aînés, les filles aînées, c'est les gens à Dieu. Donc Dieu a dit, l'aîné c'est à moi. Vous, vous prenez les autres enfants, mais l'aîné c'est à moi. On ne peut pas laisser comme ça, dire, ah ben c'est son choix. Ah non, c'est mon enfant. Dieu me l'a donné pour le servir, comme il avait donné Samuel. C'est cela, bien-aimé. Résistons à tout ça, résistons à tout ce qui est ténèbre. Résistons aux disputes de tout. Tout le temps tu te disputes avec ta femme, résiste à ça, refuse ça. Prie contre cela. Tout le temps, tu te disputes avec les gens. Résiste à ça. Refusons les ténèbres. Refusons tout ce qui est imposé sur nous, mais qui n'est pas dans la parole de Dieu. Refusons ça. Revenons aux promesses du Seigneur et exposons ça au Seigneur. Le Seigneur va nous délivrer. Nous clôturons en lisant Éphésiens 6, 11 à 20. Éphésiens 6, 11 à 20.
Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.
Amen. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des mauvais jours, bien-aimés, nous sommes dans les mauvais jours. Nous ne vivons pas tout ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est les mauvais jours. On est appelé à résister jusqu'à ce que la lumière brille. Oui, ancien.
Verset 13, hein. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Amen.
Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler.
Amen. Il était ambassadeur, mais il était en prison, dans les chaînes. Mais il dit, mais je vais parler de l'évangile avec assurance, parce que c'est la vérité. Moi, je suis dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas lié. L'évangile, c'est la vérité du Seigneur. Je suis dans les chaînes pour mon perfectionnement. Je suis dans les chaînes parce que Dieu le veut, pour que je sois un canal pour les autres. Mais l'évangile de Dieu est puissant. C'est pourquoi le même Paul dit dans Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Oui, bien-aimés, nous n'avons pas à laisser les ténèbres nous submerger. Nous devons faire reculer les ténèbres par les armes du Seigneur, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, le casque du salut, et finalement la prière avec persévérance. Tout réglé dans la prière. Dans la prière, nous devenons au niveau, nous allons aux côtés de Dieu, nous décidons avec lui. Dans la prière, nous devenons roi. C'est notre arme. Prions avec foi et les choses vont changer. S'il faut attendre 10 ans, on n'est pas le premier à attendre. Joseph a attendu 20 ans. Les enfants d'Israël ont attendu des centaines d'années avant de retourner à Jérusalem. S'il faut attendre, nous attendons le temps qu'il faut, mais Dieu va briller par sa lumière parce que nous, nous crions à lui. Il dit, quand nous crions à lui jour et nuit, il va agir promptement. C'est ce que nous attendons. Donc nous devons résister, nous devons nous armer de l'attitude de résistance. Non, ce qui est écrit, c'est ce que moi je veux vivre. Alors je vais prier jusqu'à ce que ça devienne réel, ce que je lis là. C'est à moi de produire cela par la parole et la prière. C'est ce que Dieu nous demande. Vous savez, quand on a commencé nos voyages à Brazzaville, au Congo, on a voulu faire des émissions à la télévision. Et donc, on a suivi la procédure. Bien sûr, il a fallu débourser beaucoup d'argent pour chaque émission. Et à chaque émission, c'était une lutte. On arrivait là-bas, le journaliste n'était peut-être pas là, ou bien tel technicien n'était pas là. Parfois, on avait payé pour rien. Et c'était tout le temps la lutte comme ça, alors qu'on avait payé. On s'est réunis avec les frères, on a dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. On a déjà foulé Télé Congo. Maintenant, nous allons plus nous occuper de nos omissions. Nous allons prier plutôt pour que les journalistes qui m'interviewent se convertissent. On va oublier le public. Maintenant, c'est ceux qui filment et ceux qui me questionnent. C'est eux qui doivent être touchés en premier, puisqu'ils sont physiquement là. On a commencé à prier. Eh bien, la journaliste s'est convertie. Mais maintenant qu'elle s'est convertie et que je l'ai baptisée, donc je passe là-bas gratuitement. Donc, c'est fini. Et donc là, avant de voyager, je l'appelle, je dis je viens. D'accord, donc tu passeras tel jour et tel jour. C'est fini. Dieu résout tout. Il faut résister. On n'a pas capitulé pour dire c'est trop compliqué. On change de chaîne. On a dit non, c'est la chaîne qui est suivie au Mali, qui est suivie en Guinée, qui est suivie même en France. Si Dieu nous ouvre la porte là-bas, il ne peut pas fermer. Il est écrit, si Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. On a utilisé la parole. On a prié. Non seulement il s'est converti, mais c'est moi qui l'ai baptisé en plus. À partir de là, c'est fini. Maintenant, on vient en prince à Télé-Congo. Voilà. Parce que Jésus est passé avant nous. Résistons et nous verrons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à résister, Seigneur, à ne pas laisser les ténèbres nous submerger et nous, on ne fait rien, on regarde. Nous refusons ça. Laisser la maladie nous dominer et on ne fait rien, on regarde, on prend des médicaments, on refuse ça. On va prier, Seigneur. S'il faut prendre les médicaments, on va les prendre, mais avec une distance. Nous voulons concentrer nos efforts sur la prière, Seigneur. Merci de te manifester, Seigneur, dans ta puissance, dans nos cœurs, pour produire la foi. Seigneur, tu as dit que tu as prié pour ton frère, pour ton apôtre, pour ton disciple Pierre. Tu as prié pour lui. Nous te demandons aussi de prier pour nous, que notre foi ne défaille pas, que nous puissions résister dans ce temps d'obscurité, dans ce temps où il fait nuit, que nous puissions résister jusqu'à ce que ta lumière jaillisse, que nous puissions résister comme les Epaphras, les Alan Yuan, les Da Wang, Seigneur, les Watchman Nee qui ont résisté en prison, qui ont gardé la foi jusqu'à ce que la lumière a jailli en Chine. Les gens ont commencé à se convertir comme des mouches. parce qu'il y a eu des canaux qui avaient été blanchis, purifiés pour faire passer la gloire de Dieu. Seigneur, nous savons que nous sommes dans des temps où tu nous blanchis, tu es en train de nous façonner pour qu'être des canaux par lesquels tu vas passer, pour que ta gloire se manifeste, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et nous voulons, dans ces temps de ténèbres, dans ces temps où il fait nuit, nous voulons tenir ferme. Nous voulons résister aux fausses doctrines, résister à l'incrédulité ambiante, résister aux faux dieux. Nous voulons résister dans les épreuves, croire que tu es là, Seigneur. Prier sans cesse par la foi jusqu'à ce que nous voyons les choses s'accomplir. Au nom de Jésus.